Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous allons parler d'une histoire plutôt intéressante, celle de ce Britannique qui a quitté sa femme pour une réfugiée ukrainienne. Tony Garnett, 29 ans, a choisi de quitter sa femme Lorna après 10 années de vie commune et 2 enfants pour Sofia Karkadym, une réfugiée ukrainienne de 22 ans que le couple venait d'accueillir chez lui à Bradford, en Angleterre. Cette jeune réfugiée nie être une briseuse de ménage et indique que cet amour est sincère. Elle explique aussi que c'est la jalousie et la suspicion de Lorna, la femme de Tony, qui les a rapprochés. Pour la petite précision, Tony a tenu 10 jours avant de tromper sa femme. Et après la séparation, il est retourné vivre chez ses parents avec sa nouvelle copine ukrainienne de 22 ans qui a déclaré au journal britannique The Sun « Cela ne m'a jamais traversé l'esprit. J'aimais la famille, j'ai passé beaucoup de temps avec Lorna et j'ai essayé de l'aider, mais elle jouait un double jeu. » Et elle continue, elle a elle-même créé cette situation en suggérant constamment que quelque chose se passait alors que ce n'était pas le cas, c'est donc sa faute. Ses soupçons constants, la tension, ça nous a juste rapprochés, Tony et moi. Vous constaterez que cette réfugiée ne s'excuse pas du tout pour avoir brisé une famille et remet toute la faute sur la compagne de Tony qui aurait été trop jalouse. Tout d'abord, nous allons commencer par le commencement en analysant un point très troublant qui est le choix de ce couple qui s'est porté sur une jeune et jolie ukrainienne, alors qu'ils auraient pu héberger une femme âgée, une femme avec des enfants, une femme qui a son mari qui serait resté combattre en Ukraine par exemple, une femme moins jolie qui susciterait moins de tensions sexuelles et moins d'attirance, et d'une façon générale, ils auraient pu sélectionner cette réfugiée de façon à ce qu'elle ne nuit pas au couple. Il est assez évident que lorsque tu accueilles une jeune femme sublime, magnifique, alors que ce soit une réfugiée, que ce soit une jeune fille au pair, tu prends des risques. Il y a des choses qui peuvent se passer. Si t'es une femme, que t'es mariée, que ton homme est plutôt jeune, qu'il a encore de la libido, de la testostérone, et que t'accueilles chez toi une jeune fille au pair ou une réfugiée magnifique de 22 ans, blonde, un pétard incroyable, un physique de malade, tu cherches la merde. Et c'est là où j'en arrive à la conclusion que ce couple avait une idée perverse derrière la tête. Je pense que au départ, ils avaient eu l'idée que ça pourrait être un plan à trois intéressant, que ça pourrait peut-être pimenter un peu leur vie sexuelle qui doit battre de l'aile après 10 ans de mariage. C'est clair que bon, ça doit pas être la folie. En général, la baise, ça va en se dégradant, quoi. Tu baises comme un malade les 3 premiers mois, les 6 premiers mois, avec un peu de chance la première année, puis ta femme tombe enceinte, là on ferme la boutique, il se passe plus rien, quoi. Donc le jeune Tony, ça va peut-être faire 5-6 ans qu'il n'a pas vu un cul, hein. Sa femme a eu 2 gamins, la boutique est fermée depuis trop longtemps, il voit arriver cet avion de chasse, ce missile ukrainien, 22 ans, fraîchitude de corps incroyable, il s'est dit « c'est la chance de ma vie ». Parce que le Tony, c'est pas un beau gosse, hein. Le Tony, c'est le profil kéké. Tony, c'est un peu le faux alpha, tu vois. Il a une dégaine de bêta, mais il se tatoue, peut-être qu'il fait un peu de musculation, j'en sais rien. Mais tu vois en fait que c'est le gentil qui a essayé de devenir le méchant ou qui essaye un peu de jouer au bad boy avec son tatouage spartiate sur la gueule. Mais tu comprends que le mec n'a pas de substance, il est vide, quoi. Tu comprends très bien. Déjà, quand tu vois quelqu'un se tatouer le visage, te foutre un tatouage sur la gueule, tu comprends que ça vole pas très haut niveau quotient intellectuel, parce que l'implication du tatouage sur ta vie, tu ne peux plus rien faire après ça. Enfin, tu fermes les portes de plein d'opportunités, parce que c'est comme ça, t'aimes, t'aimes pas, la société n'est pas prête à faire des affaires ou à faire confiance à quelqu'un avec un tatouage de spartiate en plein sur le côté du front, quoi, en plein sur la gueule, tu te dis le mec a un problème. À la rigueur, sur le mollet, sur le bras, sur une partie moins exposée, quand tu mets une chemise, pourquoi pas, mais dans le monde des affaires, dans le monde des gens sérieux, quand tu fais du business, quand tu fais des affaires, tu ne vois pas autour de la table des gens avec un tatouage sur la gueule. Ça ne marche pas comme ça. Donc ça, c'est le premier point que je souhaitais aborder. Je pense que ce couple, à la base, est un couple de pervers qui s'est dit « on va accueillir cette petite jeune et on pourra faire des choses intéressantes, on va pouvoir pimenter notre vie sexuelle ». Et puis ça a mal tourné parce qu'il n'y a pas eu partie à trois, il y a eu simplement une partie à deux entre Tony et sa petite Ukrainienne et Lorna, la femme de Tony, qui pensait peut-être participer aux hostilités, s'est un peu retrouvée mise à l'écart finalement. La partie à trois s'est résumée à une partie à deux avec le bonhomme Tony qui baise la jeune Ukrainienne fraîche, belle, et avec tout ce qui va avec la jeunesse. C'est-à-dire que la jeunesse, c'est pas uniquement la beauté, c'est aussi l'innocence, c'est aussi une certaine joie de vivre. C'est clair que tu vas plus te marrer avec une gonzesse de 22, 23, 24 ans qu'avec une gonzesse blasée de 35, 40 ans. C'est comme ça, c'est la vie. Lorsqu'on a moins vécu, lorsqu'on est jeune, on a été moins déçu, on a été moins cassé par la vie. Une femme de 35 ans a eu des copains, des aventures, a eu des moments difficiles, a connu des ruptures difficiles, donc elle est beaucoup plus usée et forcément beaucoup plus méfiante, alors qu'une femme plus jeune qui n'a pas été encore démolie émotionnellement, qui n'a pas eu trop de ruptures, trop de relations, a encore un peu d'espoir. Elle commence toutes ses relations avec de la joie, de l'optimisme, de l'espoir. Et c'est ce qui fait que les jeunes sont plus marrantes. Tu passes bien plus de bon temps avec une nénette de 22, 23 ans qu'avec une gonzesse de 35 ans. C'est comme ça, c'est la vie. Le vécu de la femme de 35, 40 ans fera qu'elle sera moins drôle, moins facile à vivre, moins amusante, plus méfiante parce qu'elle a connu tellement d'hommes, tellement de coups tordus, tellement de relations qui ont mal tourné, qu'elle va être tout simplement aigrie, plus aigrie du moins, que la jeune femme qui arrive un peu à la vie et qui découvre la sexualité, qui découvre les hommes, qui découvre le monde. Et j'ai vu cette analyse nulle part, pour être honnête. J'ai vu plein de textes, d'histoires, d'articles au sujet de ce fait divers, de ce phénomène, mais je n'ai pas lu d'analyse qui remette en question l'intégrité de ce couple. Ce n'est pas normal, lorsque t'es un couple marié, lorsque t'es une femme, d'accepter qu'une jeune femme très belle, réfugiée d'Ukraine, vienne vivre chez toi, avec tous les risques que ça implique. Quelque part, cette Britannique, Lorna, en invitant cette femme chez elle, a provoqué le problème, a quasiment provoqué une chose qui était inévitable. Et je pense qu'en disant ça et en faisant cette analyse, je ne suis pas loin de la vérité, ce couple espérait, en accueillant ce profil particulier, encore une fois, je me répète mais c'est important, pas une vieille, pas une femme mariée, pas une femme avec des enfants, il y a plein de profils avec qui ça aurait pu très bien se passer. Personnellement, si je devais accueillir en tant que bienfaiteur sans arrière-pensée sexuelle, sans arrière-pensée perverse, si je devais vraiment accueillir une femme d'Ukraine pour vraiment l'aider, j'aurais pris un profil différent. Parce que je sais qu'une jeune, ça va mal se passer. Il va se passer des choses, un soir, ça va partir en couille. Donc, j'aurais pris une mère célibataire avec son enfant, une femme plus âgée, une femme mûre, une femme qui a son mari qui est resté combattre en Ukraine, et j'aurais peut-être eu des scrupules à faire des choses parce que j'ai un minimum d'intégrité. D'accord, j'ai un niveau de testostérone assez important et j'ai tendance à vouloir baiser tout ce qui bouge, mais j'ai quand même un peu d'intégrité. Je ne suis pas un sauvage, je ne suis pas un chien, je ne suis pas un cannibale, et je pense que une femme avec son mari qui est encore en Ukraine, déjà elle se serait un peu freinée en se disant mon mari est au front, je ne vais pas aller me faire éclater le cul par n'importe qui, quoique certaines femmes n'auraient aucun scrupule à le faire, mais on va dire que peut-être que cet élément pourrait la freiner, et moi de mon côté, ça me freinerait un peu aussi, je me dirais que niveau karma, je prendrais peut-être des points négatifs. Ce n'est pas exclu, un accident peut toujours arriver, une jolie femme avec un mec dans une pièce, surtout en hiver, les nuits sont longues, il va se passer des choses, je vous préviens. Mais tout ça pour dire que on peut éviter les problèmes, faire du bien, faire le bienfaiteur et éviter les problèmes en sélectionnant les bons profils. Et honnêtement, ils auraient pris une femme de 40 ans avec son fils de 10 ans, ça se serait très bien passé. Le deuxième point que je souhaitais aborder, c'était le réalisme de la femme ukrainienne. Sophia, de son prénom, n'a pas hésité une seule seconde à coucher avec cet homme, n'a pas hésité une seule seconde à détruire ce foyer. Pourquoi ? Parce que tout simplement, elle fuyait la guerre, elle fuyait la misère. Et au travers de cet homme, ce qu'elle a vu, ben, c'est son ticket de sortie. Elle a tout vu chez cet homme. Elle a vu les papiers britanniques. Il ne faut pas oublier que l'Ukraine n'est pas dans l'Union européenne. C'est difficile pour les Ukrainiens d'aller vivre lorsqu'ils veulent quitter leur pays, lorsqu'ils veulent immigrer, d'aller vivre en France, au Royaume-Uni, en Espagne, en Italie. C'est très compliqué. C'est peut-être un peu plus facile aujourd'hui avec le statut réfugié. Mais partout où j'ai été, j'ai rencontré des femmes ukrainiennes qui voulaient faire leurs papiers, que ce soit en Espagne, au Portugal, en France, au Royaume-Uni. Donc, elle a vu chez cet homme la possibilité déjà d'avoir des papiers britanniques. Elle a vu ensuite la possibilité de pouvoir s'extraire de sa condition. Cet homme est hébergé par ses parents, il avait une maison avec sa femme, mais il a un métier, il peut subvenir à ses besoins. Et ça, c'est la vraie différence fondamentale entre la femme de l'Est, l'Ukrainienne, la Russe, et la femme de l'Ouest. L'Est, les pays de l'Est, n'ont pas de système social développé. Et c'est pour ça que, pour l'Ukrainienne, l'homme est important. Quelque part, une femme est une femme. Qu'elle soit ukrainienne, occidentale, une femme reste une femme. Sauf que ce qui s'est passé en Occident, et ça j'en parlais un peu dans mon livre, c'est que le système social a flingué les relations homme-femme, a flingué le cerveau de millions de femmes parce qu'il s'est substitué aux hommes. Pour l'Ukrainienne, l'option de dire « je suis une femme indépendante, je n'ai pas besoin d'hommes » n'existe pas. Pourquoi ? Parce que la CAF n'existe pas, les APL n'existent pas, les aides de l'État n'existent pas. Donc la survie d'une femme passe par un homme. Et c'est la seule chose qui fait que on respecte les hommes en Russie et en Ukraine et on ne les respecte pas en Occident. Les femmes sont les mêmes partout. Ne vous imaginez pas que les Ukrainiennes ont un pouvoir magique ou que les femmes de l'Est ont un pouvoir magique. Les femmes sont les mêmes partout. La biologie, la génétique est assez similaire, quel que soit le pays. Sauf que ce qu'on remarque et ce qu'on a remarqué en Europe de l'Ouest, c'est que ce système social, cet état-providence, ou ce qu'on a appelé l'état-providence et que moi j'appelle l'état matriarcal, l'état qui materne, l'état qui s'occupe de tout, a fait que les femmes n'ont plus eu besoin des hommes. Les femmes n'ont plus besoin des hommes parce que lorsqu'elles sont seules, elles ont la protection de l'État et elles ont la manne financière que leur offre le système social de la social-démocratie européenne. Et je sais qu'à chaque fois que je critique le système social, j'ai beaucoup d'auditeurs qui ont une sensibilité de gauche, je l'ai déjà dit, qui trouvent que je suis un peu trop libéral à leur goût, que je suis un peu trop capitaliste, un peu trop à droite. Mais ce qu'ils ne comprennent pas, c'est que le prix qu'ils ont à payer pour cet état-providence, le prix qu'ils ont à payer pour cet état matriarcal, c'est l'humiliation. Vous ne le savez pas, les mecs, et je parle aux gens de gauche, vous ne le savez pas, mais le prix que vous êtes en train de payer pour ce système social à outrance, c'est votre dignité. Le système social vous a mis des jupes. Le système social a mis des pantalons aux femmes et des jupes aux hommes. Vous savez, je me fais souvent la réflexion lorsque je repense à la Grande Armée, lorsque je repense à la France de Napoléon, et lorsque je vois la France d'aujourd'hui et les hommes d'aujourd'hui, je me fais toujours la réflexion en me disant « mais est-ce que c'est les mêmes hommes ? Qu'est-ce qui s'est passé ? Comment on est passé d'un pays de badass, un pays qui faisait trembler l'Europe entière, un pays qui, quand on commençait à parler, tout le monde écoutait, à un pays de petites soumises qui a un petit banc à l'Assemblée européenne et qui lève la main « Oui, je pense qu'il faut changer, je crois, je suis d'accord » et que personne n'écoute. Qui écoute la France aujourd'hui ? Quand la Chine parle, on écoute. Quand la Russie parle, on écoute. Quand les États-Unis parlent, on écoute. Qui écoute la France aujourd'hui ? On est passé du pays et de la diplomatie la plus grande qui n'ait jamais existé sur Terre. Très peu de pays pouvaient rivaliser avec la diplomatie française. Peut-être l'Angleterre, les États-Unis et encore, je dirais, les États-Unis à partir de la Deuxième Guerre mondiale. Mais avant ça, t'avais la France, quoi. Le français était la langue de la diplomatie. Il était parlé en Russie. Les grands penseurs russes, les grands écrivains russes, Tolstoï, Dostoïevski, n'avaient Dieu que pour la langue française. Les grands compositeurs allemands, dont Beethoven, n'avaient Dieu que pour Napoléon. Avant de se raviser quand Napoléon a lancé ses guerres contre toute l'Europe, mais ça c'est une autre histoire. Mais avant ça, Beethoven était un admirateur de Napoléon. Et pour moi, la chose, et l'une des choses les plus importantes qui a changé entre la France de Napoléon et la France d'aujourd'hui, mis à part l'immigration, eh bien c'est le système social. Et pour tous ceux qui pensent qu'on ne peut pas vivre sans le système social, tous ceux qui pensent qu'on ne peut pas vivre sans les APL, sans les ACEDIC, sans le RSA, eh bien demandez-vous comment les soldats de la Grande Armée arrivaient à vivre, comment les Français de cette époque arrivaient à vivre. Je vais vous donner la réponse. Ils travaillaient. Ils travaillaient. Et c'est le cas aujourd'hui en Angleterre. Il n'y a pas de système social. Les gens travaillent. Est-ce que quand vous vous baladez dans les rues de Londres, est-ce qu'il y a des gens qui dorment partout dans la rue? Non, les gens travaillent, c'est tout. Et la différence entre le français et le britannique aujourd'hui, c'est que lorsque le britannique perd son travail, eh bien, il cherche un autre boulot. Qu'il ait perdu son travail suite à un licenciement ou suite à une démission, peu importe. Il cherche un autre boulot et il se met à travailler. Quand le français perd son travail, et je parle en connaissance de cause, et j'ai des amis qui ont profité de ce système, lorsqu'ils ont été licenciés ou lorsqu'ils ont fait ce qu'on appelle la rupture conventionnelle, la plupart sont allés voyager. La plupart sont allés voyager 3 mois, 6 mois en Thaïlande en touchant leurs ascédiques. On est devenu un pays de feignasses. Je parlais à un pote à moi dernièrement, je lui dis « Comment ça se passe? Qu'est-ce que tu fais ?» Ah, il me dit « J'ai été licencié, mais j'ai mes points de formation, je suis en train de faire une formation en ce moment. » Je lui dis « Mais putain, mais t'as bientôt 40 piges. J'ai fait le tour du monde, je suis parti en Angleterre, j'ai créé 2 boîtes. T'es encore là à faire tes formations, les ACEDIC, le RSA. Mais réveille-toi, putain de bon sang. Qu'est-ce qui t'arrive, mec? Il a bientôt 40 ans, le mec. À 40 ans, t'es encore là à gratter les formations de Pôle emploi ?» Tu vois un soldat de la Grande Armée revenir de la campagne de Russie, aller s'inscrire à Pôle emploi, voir ce qu'il y a comme formation disponible. Ouais, je reviens de Russie, j'ai aussi fait la campagne d'Égypte, et je me suis dit, formation macramé. Reconversion, ça peut servir. Des formations de merde en plus. Hein. Je sais pas s'il y a des gens qui trouvent du boulot avec les formations Pôle emploi ou avec les points de la formation Pôle emploi, mais voilà quoi, c'est pas, ça porte pas ses fruits, c'est de la merde. Et pour revenir à ce qu'on disait, dans des pays où le système social n'existe pas, ce qui s'établit, c'est le réalisme. Le réalisme. Et ce qui est séduisant chez la femme ukrainienne, c'est le réalisme. Encore une fois, ne vous attendez pas à ce qu'elle soit différente. Une femme est une femme. Mais le respect que vous allez trouver chez la femme ukrainienne ou chez la femme russe, ou chez toutes les femmes de pays où le système social n'existe pas, eh bien, c'est tout simplement un respect de l'homme. Parce que la réussite et la survie de ces femmes passent par 2 choses. Lorsque vous êtes russe, ukrainienne, pour rester sur ces modèles, votre réussite passe par 2 choses. Ou la femme a un diplôme, des compétences, et elle travaille, et elle subvient à ses besoins. Et d'ailleurs, la Russie, au passage, est le pays numéro 1 en termes de femmes entrepreneurs dans le monde, ramenées à la population. Et option 2, t'as un mari qui s'occupe de toi. T'as que 2 options pour survivre lorsque t'es une femme. Donc, ou t'es extrêmement douée, tu travailles, t'as une compétence, et tu te fais rémunérer, ou tu te maries correctement, et t'as un homme qui prend soin de toi. Et comme la plupart des femmes ont des compétences qui rémunèrent peu, sociologie, histoire, les sciences molles, eh bien, la plupart choisissent plutôt l'option de s'associer à un homme, pas forcément riche, mais un homme correct, un homme qui sait se tenir, un homme qui travaille, un homme qui est courageux. Vous remarquerez qu'en Europe de l'Est, le courage est bien plus important que le physique. Entre un homme beau gosse, mais qui s'épile type métrosexuel, un peu glandeur, qui sait rien foutre de sa vie, et un homme moins, on va dire, gâté physiquement par la nature, mais un courageux, un bosseur, quelqu'un qui a des valeurs, quelqu'un qui est solide, quelqu'un sur qui on peut compter, eh bien je te garantis que le mec solide aura beaucoup plus de prétendantes et arrivera à se caser beaucoup plus facilement que le guignol métrosexuel qui est beau gosse, mais qui n'a pas d'utilité. C'est des pays du froid, c'est des pays où la vie est difficile, c'est des pays où on meurt jeune, c'est des pays où si tu n'as pas de rentrée d'argent, tu meurs. Il n'y a pas l'État pour toi. L'État n'est pas là pour toi. Tu peux compter sur toi-même ou sur ton mari lorsque tu es une femme ou sur ta famille, la famille rapprochée, frères et sœurs, la famille éloignée, cousins, grands-pères, cousins éloignés. Tu peux compter sur ça en fait, sur rien d'autre. Et j'ai toujours trouvé ce réalisme extrêmement séduisant chez les femmes de l'Est. On me dit souvent « Pourquoi t'aimes les femmes de l'Est ?» C'est pas uniquement parce qu'elles sont jolies, c'est pas uniquement ça. D'accord, elles ont un physique extraordinaire, mais ce physique, il existe aussi ailleurs. Tu peux trouver de jolies femmes en Norvège, en Islande, en Allemagne. Les Allemandes sont très belles. Mais malheureusement, c'est des Occidentales. Et malheureusement, elles sont pour la majorité flinguées. Tu ne trouves pas ce réalisme chez l'Allemande. Tu vas trouver autre chose, tu vas trouver de la névrose, de l'hystérie. Mais tu ne trouveras pas ce réalisme de la femme qui comprend la vie. Un homme, des enfants, à manger, une maison chauffée. Et c'est ça le bonheur. Il n'y a pas de crise existentielle du type « je vais me faire tamponner le cul à Ibiza pendant 10 ans, faut que je suce 250 bits avant de me poser, faut que je fasse mes expériences, faut que je me fasse dilater l'anus avant de trouver le bon ». Il n'y a pas ce genre de choses. Mari, enfant, manger, maison, sécurité, point. Tu chauffes la maison, c'est déjà un bonus. Tu lui payes des vacances une fois par an, elle est au paradis. Tu lui achètes des fleurs, elle pleure de bonheur. D'ailleurs, c'est quelque chose que j'ai remarqué pendant mon séjour à Kiev. J'ai passé, juste avant la guerre en fait, j'ai passé l'été dernier à Kiev, une partie de l'été dernier, on va dire, un mois et demi, et j'ai été impressionné par le nombre de fleurs que je voyais dans la rue. Vous voyez des hommes acheter des fleurs, et vous voyez des femmes marcher avec des bouquets de fleurs que leur ont offert des hommes. Ça se fait en fait. Quand un homme sort du travail, il passe acheter des fleurs pour sa femme ou pour sa copine. J'ai trouvé ça incroyable. Qui achète des fleurs aujourd'hui en Occident? Qui aujourd'hui, en sortant du travail en France ou en Angleterre ou aux États-Unis, va acheter des fleurs? Ça n'existe plus. Les femmes ne nous donnent pas envie de le faire. T'arrives à la maison, elle est en survêt, en pyjama, avec des chaussettes, en train de bouffer des chips. Qu'est-ce qui t'arrive, putain? Réveille-toi, secoue-toi. T'arrives à la maison, la russe, elle est en talons aiguilles, elle a fait la cuisine, prête à te sucer. C'est un autre monde. Magali, 80 kilos, t'as pas envie d'acheter des fleurs quand tu rentres à la maison. Déjà, t'as pas envie de rentrer à la maison. T'as envie de bosser. T'as ton patron, il est là. Jean-Jacques, il est 18h, faut que tu rentres. Non, ça va, je vais faire des heures sup, je dois rattraper du travail. Il a rien à faire, Jean-Jacques, en fait. Il joue au solitaire depuis 3 ans. Mais il veut pas rentrer chez lui. Il en a ras le cul de sa femme, il est au bout de sa vie. Alors acheter des fleurs, c'est pas dans son radar. Puis Jean-Jacques, il décide à rentrer à la maison. C'est bon, il est 20h, il est à la Défense, il a encore 1h30 de métro à se taper. Il se dit bon, je vais quand même rentrer. Il arrive à la maison, il tourne la clé, à peine la porte s'ouvre, t'as la grosse qui commence à gueuler. T'as pensé à ramener du pain, Jean-Jacques? Jean-Jacques? Oui, Magali, je sais pas, Magali, il est 20h30, t'es prof, t'as fini les cours à 16h, t'as pas pu passer à acheter du pain. Ah, mais c'est toujours moi qui achète le pain, tu penses jamais à ce genre de choses. Tu lui fais quoi, là, Magali, à ce moment-là? Tu lui fais des choses qu'on peut pas raconter sur YouTube. On est d'accord. Si Jean-Jacques vivait en Ukraine ou en Russie, par exemple, ça serait un autre délire. Il arrive à la maison, alors déjà, il est pressé de quitter le travail. Il y a un truc qui l'attend à la maison. Ça sent les gâteaux, le chocolat, la cannelle, la maison embaume. Ça va être un festival. Sa femme a acheté de la lingerie, elle est en talons. Déjà, Jean-Jacques, il est en train de rêver. Il finit le boulot à 18h, mais à 13h déjà, il commence à fantasmer. Puis à 18h, il se dit « Tiens, avant d'entrer, il faut que je passe récupérer les fleurs. » Il achète les fleurs, il arrive à la maison, il tourne même pas la clé. Il frappe à la porte. T'as la sonnette, t'as la porte, c'est elle qui vient ouvrir. Le truc des clés, déjà, c'est un truc d'occidental. T'arrives avec les clés, tu tournes la porte et tout. C'est qu'il y a... En fait, elle est là, mais elle veut pas t'ouvrir la porte. Déjà, c'est la misère. En fait, la misère de l'occidental commence par les clés. T'arrives chez toi, tu mets la clé dans la serrure. Déjà, tu sais que t'es en Occident. Elle est à la maison, mais elle t'ouvrira pas la porte. Là, en Russie, il fait toc, toc, toc. T'as Ekaterina qui vient lui ouvrir la porte. Elle a fait la cuisine, la maison est propre, les enfants sont lavés, ça sent bon, t'es prêt à manger, tu la baises avant de dormir. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Comment une occidentale peut rivaliser avec ça? Mais ça, ce n'est possible que quand les femmes sont encore des femmes. Ce n'est possible que quand tu n'as pas un système social qui flingue les cerveaux, un système social qui explique que, quelle que soit la direction que prendra une femme, quelle que soit la façon dont elle traite les hommes, il y aura toujours l'État qui viendra lui donner de l'argent, même si elle a fait des erreurs, même si elle a fait des bêtises, même si elle a divorcé. Certaines femmes s'en sortent mieux divorcées qu'avec leur mari, parce que, en plus de la CAF, des APL, du logement social, elles ont la pension alimentaire du mari qui est versée. Certaines femmes deviennent plus riches après un divorce qu'en vivant avec leur mari, en plus de la liberté qu'elles auront, parce qu'elles ont le beurre, l'argent du beurre, le cul de la crémière. Elles ont l'argent, les enfants, et maintenant elles peuvent se taper tous les hommes qu'elles veulent parce que la monogamie est terminée. Et je ne sais pas si je suis le seul à faire cette analyse, je suis peut-être le seul, je n'ai entendu aucun sociologue français parler de l'impact du système social et de la social-démocratie sur les comportements féminins. Je devrais peut-être breveter cette idée avant qu'on me la pique. Et pour renforcer cet argument, je souhaitais vous parler de la Pologne et d'un article qui raconte que même les Polonais sont à la recherche de femmes ukrainiennes. Un article qui titre « Pola Zuka Ukraini na zon », qui veut dire en traduction littérale « Un Polonais cherche une femme ukrainienne ». Et je vous mettrai l'article en description pour ceux qui savent lire le polonais. Je n'ai pas trouvé de version traduite, je n'ai pas réussi à le traduire. Mais si vous lisez le polonais, c'est un article extrêmement intéressant. Et il explique que même les Polonais aujourd'hui, qui l'eût cru, les Polonais galèrent à trouver des gonzesses chez eux. Les Polonais galèrent à sortir, à fréquenter des Polonaises. Pourquoi ? Parce que la Polonaise s'occidentalise. La Polonaise, qui était l'une des femmes les plus féminines, les plus incroyables, parmi les femmes les plus belles du monde avant l'entrée de la Pologne dans l'Union européenne, eh bien, devient aussi un pays qui a les mêmes problèmes. Les femmes polonaises ont maintenant, avec la possibilité de voyager, la possibilité de traverser les frontières, avec Tinder, avec Internet, avec les réseaux sociaux, ont la possibilité d'aller fréquenter de riches Allemands, d'aller à Munich, d'aller en Autriche et d'accéder au haut du panier en termes d'hommes. Et la Polonaise traditionnelle qui se contente de son petit mari salarié polonais se fait de plus en plus rare. Et je n'aurais jamais imaginé qu'une chose comme ça puisse arriver en Pologne. Eh bien, la misère sexuelle est en train de s'installer en Pologne. La Pologne, c'était le paradis des hommes. Tous les mecs qui allaient en Pologne, notamment les soldats américains basés là-bas, les gens qui voyageaient, les gens qui travaillaient en Pologne, les Occidentaux qui avaient l'occasion d'aller en Pologne, revenaient avec une Polonaise. Parce qu'elles sont belles, parce qu'elles sont féminines, elles sont incroyables. Ex aequo avec les Ukrainiennes, peut-être même un poil au-dessus, parce que faut savoir que l'Ukrainienne, peu de gens le savent, mais a un côté michto, un peu trop prononcé à mon goût. C'est pas complètement une critique parce que je le comprends. L'Ukraine est un pays extrêmement pauvre. Si vous pensez par exemple que la Pologne est pauvre, vous n'avez rien vu. L'Ukraine, c'est la misère. Même avant la guerre, hein, aujourd'hui, on parle de l'Ukraine comme un grand pays révolutionnaire, Zelensky, le roi du monde. L'Ukraine, c'est l'un des PIB les plus bas d'Europe, c'est l'un des pays les moins développés d'Europe et ça a toujours été l'un des pays les plus pauvres d'Europe. Donc l'Ukraine, c'est la misère. Et donc, j'ai envie de dire, la michto ukrainienne se justifie presque par ce niveau de misère. Autant je ne comprends pas la michto française, américaine, voilà, c'est des pays riches, tu peux à peu près te débrouiller. Mais la michto ukrainienne, j'ai presque envie de lui pardonner, parce que le niveau de misère est extrêmement élevé. Alors, si tu vis à Kiev ou dans une grande ville où elles vivent, ou à Kharkiv, bon, avant la guerre bien sûr, peut-être que tu arrives à t'en sortir, tu travailles dans une université, t'es prof, tu travailles pour une multinationale. Mais dans la campagne en Ukraine, il y a une pauvreté incroyable. Et donc l'argent pour l'Ukrainienne est très important. Et parfois trop important, jusqu'à leur flinguer le cerveau. J'avoue que quand j'étais en Ukraine, les quelques Ukrainiennes que j'ai rencontrées, et ensuite il y en a une que j'ai fréquentée pendant plusieurs semaines, c'est celle avec qui je suis resté, il n'y a pas de culture de ce qu'on appelle le hook-up en Ukraine. Il ne faut pas croire que les femmes se font culbuter à tour de bras. En général, elles aiment les relations stables et elles ne donnent pas leur cul gratuitement. La culture de ce qu'on appelle le hook-up, le coup d'un soir ou le Netflix and chill, ça n'existe pas. en Ukraine. Ça n'existe pas. Ou du moins, c'est extrêmement rare. Il faut vraiment que vous tombiez sur une rareté occidentalisée, bien sûr. Mais en général, elles n'aiment pas donner leur sexualité, leur corps, pour rien ou contre rien. Donc moi, avant d'avoir un rapport sexuel avec l'Ukrainienne que j'avais rencontrée, j'ai dû charbonner pendant 3-4 semaines. Hein. 3-4 semaines à la voir, à prendre des cafés, à discuter, à la sortir en dîner. J'aurais jamais fait ça en Occident. En Occident, deuxième rencard, maximum troisième rencard, il se passe rien, je remballe, je perds pas de temps. Mais en Ukraine, c'est un autre logiciel, et en Russie aussi. Faut te préparer vraiment à faire ça sur la durée, faut qu'elle comprenne qui tu es, faut qu'elle comprenne que t'es pas là pour tirer ton coup et te barrer. Donc la hook-up culture n'existe pas. Et l'argent est très important. Si tu as les moyens de lui payer à manger, de lui offrir des fleurs, de la sortir, tu es le roi du pétrole. Et si tu l'emmènes en vacances, par exemple, tu es Dieu. Mais encore une fois, ça s'explique. On ne parle pas de la michetonneuse française ou de la michetonneuse anglaise qui viennent de pays riches. On parle de femmes qui ont développé la michetonnerie, on va dire, par nécessité. Quand on parle de pauvreté, c'est pas la pauvreté qui fait que tu ne peux pas t'acheter un sac Louis Vuitton. C'est la pauvreté qui fait que tu ne peux pas acheter de viande, que tu ne peux pas manger le soir, par exemple. La pauvreté qui fait que tu peux te payer que 2 repas par jour. C'est de ce niveau de pauvreté-là dont on parle. Et pour revenir à ce qu'on disait, la Pologne est aujourd'hui en train de se faire parasiter par cette occidentalisation. Il doit rester peut-être dans les petites villes, dans les petites communautés, un soupçon de tradition, mais dans les grandes villes, à Varsovie, par exemple, la polonaise commence à se comporter comme une occidentale. Et les hommes polonais commencent à connaître les mêmes problèmes que les hommes français, canadiens, belges. Une espèce de misère sexuelle commence à s'installer. Et cet article, dommage qu'il est en polonais, mais déjà le titre nous en dit beaucoup, hein, un polonais à la recherche d'une ukrainienne, parce qu'ils sont à la recherche de ce que leurs pères ont connu. Leurs pères ont connu la polonaise qui ressemblait à l'ukrainienne, la polonaise traditionnelle qui respecte les hommes, la polonaise orientée famille. Il y a toujours une très forte tendance à la famille en Pologne. Hein. Tout n'est pas perdu. Par exemple, l'avortement est interdit. C'est un grand sujet d'ailleurs en ce moment. Ça reste un pays solidement ancré dans le catholicisme et dans la tradition. Ce n'est pas pour autant complètement flingué. Mais ça en prend le chemin. Beaucoup de Polonaises, par exemple, que j'ai rencontrées, m'ont parlé de ce problème, de l'avortement. Pour les femmes, ça a l'air d'être un gros problème. Elle me regarde et elle me dit c'est en train de partir en couille en Pologne. C'est une Polonaise avec qui j'ai parlé récemment. Et elle me dit l'avortement est interdit, maintenant ils vont même surveiller lorsque tu tombes enceinte ou lorsqu'une femme tombe enceinte, il faudra s'inscrire chez un médecin pour bien vérifier qu'elle n'est pas allée se faire avorter après. Je la regarde et je lui dis « mais qu'est-ce qui te dérange ?» Et elle me dit « mais si j'ai envie d'avorter ?» Et je lui réponds « mais pourquoi t'aurais envie d'avorter ? T'es jeune, t'es belle, t'es en bonne santé, pourquoi tu vis en te disant « j'ai envie d'avoir le droit d'avorter ?» Je lui dis « par optimiste. Dis-toi que tu vas avoir des enfants qui seront en bonne santé, qui seront beaux, qui n'auront pas de problème, qui n'auront pas de maladie, touche du bois. Et puis voilà, c'est la vie, quoi. » Et quand je dis ça, elle a lâché un petit sourire. J'ai l'impression que je l'ai détendue. Parce qu'en fait, elle s'est transformée en militante pro-avortement sans savoir pourquoi. Elle s'est tout de suite mise dans la tête que ses enfants auront des problèmes ou elle va avoir des enfants avec un mec qui ne lui plaît pas et donc elle va vouloir avorter. Elle s'est tout de suite mise dans un cerveau de féministe flinguée, déglinguée, en partant perdante. Et elle rencontre un homme sain, je considère être un homme sain, qui lui dit « mais non, d'accord, l'avortement n'est pas autorisé, mais c'est pas ton problème. Toi, t'es jeune, t'es belle, t'es en bonne santé. » Ne bois pas trop d'alcool, ne chope pas de MST, ne te fais pas éclater le cul par 250 mecs et tu verras que ça se passera très bien. Tu auras de beaux enfants, tu seras heureuse, tu en auras 2, 3, 4, autant que tu veux et ça se passera bien. C'est à ça qu'une femme saine d'esprit devrait penser. C'est pas avant d'avoir des enfants direct à la possibilité d'avorter. Elle devrait, ou son premier souci devrait être le fait d'avoir des enfants sains et beaux. S'il s'avère qu'il y a un problème, on avisera. On avisera, voilà, si vraiment il y a un problème, s'il y a un truc grave, effectivement, qui a envie de mettre au monde un enfant difforme qui va souffrir ? Si c'est quelque chose qu'on peut détecter et qu'on sait qu'il y a un truc qui ne va pas, Là, c'est un sujet, on pourra en débattre. Mais partez pas perdant, quoi. Partez pas perdant. On se dit que ça va bien passer, on part optimiste dans la vie, et quand il y a un truc qui merde, on avise. On part pas à l'avance. Quand tu vas en vacances, tu te dis pas « je vais avoir un accident de la route ». Tu te dis « ça va bien se passer ». S'il y a un truc qui part en couille, on avisera. Donc, la Pologne à surveiller. D'ailleurs, j'ai prévu de passer une bonne partie de mes vacances d'été en Pologne pour voyager un peu dans le pays. Et je pense que je vous ferai prochainement un petit podcast pour vous parler de la situation en Pologne. Et on pourrait se demander, mais quel avenir pour ce couple? Quel avenir pourrait avoir ce nouveau couple qui s'est formé, Tony et sa copine ukrainienne? Eh bien, moi, je pense que le scénario qui va se passer, c'est que c'est un couple qui ne va pas durer. Pourquoi? Parce que Tony a réussi à avoir accès à cette femme par une fourberie. Voilà, c'est la guerre, elle a fui son pays, elle se retrouve chez lui, elle est seule, elle est jeune, elle est belle, et il se passe ce qui se passe. Sauf que le mec, quand tu le regardes, il n'a pas les épaules. Le mec a un tampon de spartiate sur la gueule. T'as l'impression que c'est les tampons, trucs que tu trouves dans les anciens chewing-gums, tu vois, le truc que tu déballes et tu te l'imprimes sur la main. On faisait ça quand on était gamin. T'as l'impression que c'est ça qu'il a. Il s'est fait un tampon fantasy sur la gueule, il s'est imprimé un truc de spartiate sur la gueule. Tu comprends tout de suite que le mec, il a ni les épaules ni les couilles pour garder une gonzesse comme ça. Donc en fait, elle l'utilise, c'est l'une de ses branches avant de sauter à une autre branche, c'est l'une des branches qu'elle utilise aujourd'hui pour se stabiliser, pour avoir un foyer en Angleterre, pour avoir des papiers britanniques. Peut-être qu'elle aura des enfants de lui, et ensuite elle va le larguer pour recevoir la pension alimentaire. Bien sûr, elle aura des aides de l'État au Royaume-Uni, ça existe. Il n'y a pas vraiment d'aide pour le chômage en Angleterre, mais il y a beaucoup d'aide pour les mères célibataires, les femmes isolées, etc. Parce que l'une des règles par rapport aux femmes étrangères, et notamment par rapport aux femmes étrangères qui viennent de pays pauvres, c'est de ne jamais les ramener en Occident. C'est la règle à respecter. Lorsqu'on ramène une femme de Thaïlande, du Vietnam, d'Ukraine, de Russie, ne jamais les ramener en Occident. Pourquoi? Parce qu'une femme est par essence opportuniste. Elle cherchera toujours sa meilleure option. Quand tu faisais le beau au Vietnam ou en Ukraine, t'étais sa meilleure option. T'étais l'occidentale qui gagne 2000 euros, pour là-bas c'est énorme. Donc elle te voyait comme Dieu, quoi. T'étais sa porte de sortie, t'étais son visa, t'étais sa possibilité de s'épanouir, de partir. Sauf que lorsque tu la ramènes en France ou en Allemagne, quand tu la ramènes à Munich, où t'as une voiture sur deux qui est une BMW ou une voiture sur trois. Munich, c'est un festival. J'ai halluciné quand j'y suis allé. T'as pas de la Renault, de la Twingo, hein. La voiture la moins chère, c'est une Golf. Même les étudiants allemands roulent en Golf série 7. La meuf, elle arrive. Toi, t'es venu la chercher à l'aéroport en Twingo. T'es tout content, tu charges les valises dans la bagnole. Et elle, déjà, dans le trajet de l'aéroport jusqu'à la maison, elle voit déjà que les autres mecs ont d'autres bagnoles. Elle comprend sur le trajet de l'aéroport que t'es pauvre. Elle comprend l'arnaque. Elle pose le pied sur le territoire européen, surtout si elle arrive dans un pays riche, Suisse, France, qui est aussi relativement un pays riche. Dès qu'elle pose le pied sur le territoire européen, sur le chemin entre l'aéroport et ta maison, elle voit déjà que tu as une bagnole flinguée et elle voit ce qui se passe autour. Déjà, elle a envie de divorcer. Pourquoi? Parce que tu as changé de ligue. Tu vois, c'est comme les footballeurs qui vont jouer, les vieux footballeurs européens, type Thierry Henry et compagnie, qui vont jouer au Qatar, qui vont jouer dans les pays où on ne sait pas vraiment jouer au foot. En fait, c'est ça ce qui se passe quand tu es un occidental qui va dans ces pays pauvres. Tu apparais comme un bon joueur, même si en Europe, t'es même pas bon pour la deuxième ligue, quoi. T'es même pas bon pour le CFA. T'es bon pour rien. Donc tu vas jouer au foot à Dubaï ou au Qatar. Bon, tu fais le show là-bas parce que les gens savent pas jouer au foot. Et c'est un peu ce qui se passe avec les femmes. C'est un peu cette analogie. C'est que lorsqu'elles arrivent en Europe, elles arrivent en Ligue 1 et elles réalisent que toi, t'es un joueur de CFA ou de deuxième division, au mieux. Et à ce moment-là, elles ne te regardent plus. Et c'est pour ça que la majorité. Je ne sais pas s'il y a des statistiques sur le sujet, mais la majorité des mecs qui ramènent des femmes de ces pays en voie de développement ou sous-développés ou pauvres, on appelle ça comme on voudra, qui les ramènent en Occident dans des pays riches, dans la majorité des cas, ça finit en divorce si les femmes sont très belles. Si elles sont moches, bon, mais si elles sont belles, si elles sont jeunes, si elles sont fraîches, quand elles verront ce qui s'offre à elles, La meuf se mettra un soir sur Tinder ou pendant la journée quand t'es au travail, elle se mettra sur Tinder. Elle aura 450 matchs au bout d'une heure. Elle va tout de suite comprendre ses options. Et moi, je te le dis, t'es déjà cocu sur le chemin de l'aéroport. T'as commandé ta mariée ukrainienne. Sur le chemin de l'aéroport, elle a déjà commencé à repérer les bagnoles. Donc si vous voulez être heureux avec une femme étrangère, ne la ramenez jamais, jamais, jamais en Occident. Laissez-la dans son environnement naturel. C'est comme pour certains animaux, hein, c'est les lois de la nature. Faut pas leur changer d'environnement. Tu ramènes pas un animal de la savane sur la banquise. Tu mets pas un ours blanc en Afrique. Il y a des règles comme ça, des animaux qui vivent dans leur environnement. Tu fais pas nager un poisson d'eau douce dans la mer. Tu ne fais pas nager un requin dans de l'eau douce. Il y a des règles comme ça. Faut pas changer d'environnement. Un animal doit évoluer dans son environnement naturel. Et pour les femmes des pays de l'Est, c'est la même chose. Faut les laisser, ou des pays pauvres, hein, c'est valable pour le Vietnam, pour la Chine, faut les laisser dans leur environnement naturel, avec leurs repères, avec leurs racines, avec leur famille. Parce que si tu les ramènes en Occident, ça va leur flinguer le cerveau et tu seras cocu à la vitesse de la lumière. Et pour conclure ce sujet passionnant, je souhaitais vous parler des féministes suédoises. Les féministes suédoises en sueur. Ce qui s'est passé, c'est que en Suède, on a interdit aux réfugiées ukrainiennes de porter des tenues sexy. Par sexy, on entend short, robe courte, pour éviter d'aguicher, de provoquer les mâles non européens qui vivent aussi dans ces camps de réfugiés. Quelque part, les femmes suédoises ont voulu appliquer la charia. Elles imposent aux Ukrainiennes ce que personne ne leur a imposé à elles. Les femmes suédoises, féministes, ont imposé aux Ukrainiennes de porter des vêtements amples. Pourquoi pas le tchador, le voile islamique, tant qu'à faire. Et l'argument, c'est que, en fait, si elles sont trop sexy, elles risquent d'exciter les autres réfugiés. J'ai envie de dire, mais pourquoi les Suédoises n'excitent pas les autres réfugiés? Pourquoi les Suédoises ont le droit de se balader le cul à l'air alors qu'il y a plein de migrants dans la rue? Stockholm est devenue une poubelle à ciel ouvert. Vous comprenez l'hypocrisie de cette démarche. Les Suédoises n'ont pas peur que les Ukrainiennes aguichent les migrants ou provoquent les migrants. Les Suédoises ont peur que les Ukrainiennes provoquent les hommes suédois. Les Suédoises, les féministes suédoises, ont peur que les hommes suédois réalisent ce qu'est une femme. Une femme simple, une femme qui fait la cuisine, une femme qui est aimante, une femme qui kiffe les hommes, une femme qui respecte les hommes, une femme qui adore les hommes, surtout s'ils sont riches, s'ils sont courageux, s'ils travaillent, s'ils sont honnêtes, les vraies valeurs, quoi, les vraies valeurs de la masculinité, de la virilité. Si le Suédois découvre ça, la Suédoise est dans la merde, c'est fini. Et je me suis dit, mais le féminisme, c'est vraiment un combat d'hypocrite. En fait, c'est en réalité une espèce de rapport de force malsain qui tente d'extraire un maximum d'avantages et de spolier les hommes qui sont les plus gros payeurs d'impôts. Lorsqu'on parle de système social, qui le finance, ce système social? C'est les gros salaires. Qui sont les gros salaires? C'est les hommes. Encore une fois, c'est pas Magali caissière qui finance le système social français. C'est les ingénieurs, c'est les codeurs, c'est les chirurgiens, c'est les médecins, c'est les gros salaires. C'est ceux-là qui payent des impôts. Les pilotes d'avion, et c'est essentiellement des hommes. Et cet article qui parle des Suédoises en panique, qui essayent de couvrir, de cacher le corps des Ukrainiennes, je m'en délecte. Quand j'ai lu ça, je me suis dit, mais voilà la preuve. Voilà, si vous doutiez de l'honnêteté des féministes, si vous doutiez de l'honnêteté de ces femmes qui crient à la liberté des femmes, à l'émancipation, elles ont imposé des vêtements amples aux réfugiées ukrainiennes. La réfugiée ukrainienne en Suède n'a pas le droit de porter un short, n'a pas le droit de porter une mini-jupe, n'a pas le droit d'être trop sexy. Ces mêmes féministes qui défendent la liberté des femmes, l'émancipation, interdisent aux Ukrainiennes de faire la même chose. Pourquoi ? Parce qu'elles se sentent menacées. Elles se sentent menacées par la femme traditionnelle qui débarque en masse et qui va montrer aux Suédois ce qu'est une femme. le Suédois qui toute sa vie a fait le ménage, a partagé les tâches, il a fait toutes les conneries qu'une gonzesse fait à la maison, il va réaliser en fait que non. En fait, non, il y a un autre modèle de société. Tu rentres à la maison, ça sent bon, t'achètes des fleurs, ta femme a fait la cuisine, les enfants sont propres, elle est bien habillée, elle est féminine, elle t'attend. Tu lui racontes ta journée, elle est au paradis, elle kiffe. Tu lui parles des prochaines vacances où tu vas l'emmener, elle est au paradis, elle te fait une pipe. C'est ça la vie, bon sang de bon sang. La vie d'un homme, c'est pas passer l'aspirateur, partager des tâches, faire la cuisine, c'est pas ça la vie d'un bonhomme. Qu'est-ce que c'est que ces conneries? Comment Homo sapiens est arrivé à ce niveau-là? Comment on est passé du singe au cocooning? Du singe à Ikea? Le mec en caddie dans Ikea en train d'acheter des mugs. « Ah chérie, on prend des mugs jaunes cette fois. Qu'est-ce que t'en penses ?» Bien sûr, elle va lui dire non. Elle le méprise. C'est pas normal. Si elle lui dit oui, c'est trop facile. Elle le méprise, c'est une merde. Elle va lui dire non. Les mugs jaunes, non, tu racontes n'importe quoi. On va prendre des mugs bleus. Ça ira mieux avec la couleur des portes de la cuisine. Ouais, c'était juste une suggestion. Tu veux un café ? Mais vous avez compris que cette situation n'est pas tenable. Cette situation de déséquilibre dans laquelle vit l'Occident n'est pas tenable et les féministes le savent. C'est pour ça qu'elles sont en panique lorsqu'elles voient débarquer de l'Ukrainienne. Elles savent très bien qu'elles sont une fraude. Le féminisme est une fraude, c'est une arnaque. Elles savent très bien qu'elles vivent sur les ruines d'un empire bâti par les hommes. La civilisation occidentale bâtie par les Grecs, bâtie par les Romains, qui nous a laissé la démocratie, qui nous a laissé la philosophie, tout ce qui a été le fondement de la civilisation occidentale a été complètement détruit et les féministes vivent aujourd'hui sur les ruines de cet empire. Même la libération des femmes a été offerte par les hommes. Dans quelle autre civilisation on traite les femmes mieux que dans la civilisation occidentale ? Aucune, aucune. Allez en Iran, allez en Arabie Saoudite, allez en Afrique, allez en Inde, allez en Chine. Dans certaines familles, on enterrait les bébés vivants lorsque c'était des filles, parce que c'était la politique de l'enfant unique et que toutes les familles voulaient avoir des garçons. Donc, lorsqu'une fille venait au monde, eh bien, il fallait l'effacer. Il fallait faire en sorte qu'elle n'existe pas pour qu'il puisse tenter d'avoir le deuxième gamin qui, avec un peu de chance, sera un garçon. Voilà ce que font les autres civilisations des femmes. Aucune civilisation ne traite mieux les femmes que la civilisation occidentale. Et voilà comment les femmes d'Occident nous le rendent. On les a mieux traitées qu'aucune civilisation sur Terre et elles nous le rendent avec du hashtag MeToo, avec alerte aux violeurs, avec alerte aux harceleurs, etc. Elles font ça qu'en Occident. Lorsque les femmes voyagent au Mexique, en Thaïlande, il y a plein d'occidentales qui voyagent dans ces pays-là. Jamais elles n'ont porté plainte. Jamais elles n'ont porté plainte. Pourquoi ? Va essayer de porter plainte au Mexique. Si un mec te met la main au cul, va essayer de porter plainte au Mexique. Je vais te dire ce qui va se passer. Non, je ne vais pas te dire on est sur YouTube. Mais il n'y a qu'en Occident que tu peux porter plainte pour ce genre de choses. Va porter plainte pour attouchement en Colombie. Va porter plainte pour attouchement en Turquie. Tu vas finir en kebab. Et il faut que les femmes en soient conscientes. Aucune civilisation n'a mieux traité les femmes et n'a plus aimé les femmes que la société occidentale. Et je trouve qu'on nous le rend très mal. Mais encore une fois, cet équilibre est fragile, cet équilibre ne durera pas. Et la paperasse du féminisme, l'hystérique Simone de Beauvoir le savait en nous disant « N'oubliez jamais qu'il suffira d'une crise politique, économique ou religieuse pour que les droits des femmes soient remis en question. Ces droits ne seront jamais acquis. Vous devez rester vigilante votre vie durant. » Un système injuste ne peut pas durer. Et c'est pour ça que toutes les féministes et leur support médiatique savent très bien que lorsque ça partira sérieusement en couille, il ne restera plus rien de ce système. Et moi, je répondrai à Simone de Beauvoir avec mon poète préféré, Bob Dylan, qui disait « Il y a une bataille au dehors qui fait rage. Elle secouera bientôt vos fenêtres et ébranlera vos murs, car les temps sont en train de changer. La ligne est tracée, la malédiction est lancée. Ce qui arrive lentement maintenant va bientôt s'accélérer. Comme le présent sera un jour le passé, l'ordre établi change rapidement, et les premiers d'aujourd'hui seront les derniers de demain, car les temps sont en train de changer. Voilà ce que j'avais à dire pour aujourd'hui. Et que dire d'autre? Eh bien, comme à mon habitude, prenez soin de vous et à très bientôt.
Come senators, congressmen, please heed the call. Don't stand in the doorway, don't block up the hall. For he who gets hurt will be he who has stalled. There's a battle outside and it's raging. We'll soon shake your windows and rattle your walls. For the times, they are a-changin'.